Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Diagonale. Eh bien aujourd'hui, on va faire un bond dans l'espace et dans le temps, puisqu'on va se retrouver en pays gascon, en Gascogne, pour aller voir un passionné du jeu, un joueur qui a connu aussi, on va le voir, une des stars des échecs français. Et puis il va nous parler de sa passion, y compris des livres d'échecs, et en particulier, on va parler bien entendu, puisque c'est l'actualité en ce moment, de Philidor, bien entendu. Il va nous parler de Philidor, et bien se passionner du pays gascon, donc des Landes. C'est Pierre Tesserenc. Bonjour Pierre.
Bonjour Stéphane.
Alors Pierre, raconte-nous un peu. Tu es situé à Dax dans les Landes, et puis tu as été notamment, hein, et tu vas nous raconter ça un peu, mais tu as été président du club de Dax, et ce qui t'a permis de voir une star monter.
Oui, le club de Dax qui s'appelle toujours l'Échiquier d'Aqua. Et quand je suis arrivé, effectivement, il y avait déjà de bons joueurs, des jeunes, et notamment Laurent Fraissinet, qui garçon adorable et qui crée vraiment une ambiance et un haut niveau dans ce club. Et c'est un souvenir magnifique. Je l'amenais souvent des tournois. C'était un passionné de blitz, évidemment. On faisait beaucoup de blitz. Et c'était quelqu'un qui tirait vers le haut tout le monde, puisque avec sa gentillesse et son naturel et son amour du jeu, il nous montrait tout le temps des combinaisons, des ouvertures.
Et je crois
Voilà,
que.
Stéphane.
Je crois que tu m'avais raconté que il est revenu pendant très longtemps, il revenait très souvent à Dax, y compris pour donner des simultanés, même quand il est devenu grand maître et qu'il jouait les grands tournois internationaux, et qu'il venait quand même retrouver ses anciens collègues du club pour leur inculquer toujours l'excellence échiquienne, hein, pour leur donner des simultanés, des cours, des informations échiquiennes.
Il a été toujours très disponible. Et l'un des présidents, qui était mon successeur, organisait des simultanés au bel hôtel Splendide à Dax. Et c'était vraiment très bien organisé. Il venait à Dax, il venait voir ses parents, il venait voir ses copains, il venait jouer au club. Toujours très, très disponible, ce Laurent Fraissinet. Évidemment, on ne pouvait pas imaginer qu'il allait devenir si bon, mais même déjà, il était maître, ça nous impressionnait beaucoup. Ensuite, il est devenu grand maître. Et là, c'était une fierté pour tout le monde de voir un Dacquois atteindre ce niveau.
Oui, ce niveau, et on peut rappeler quand même que Fraissinet fait partie des tout meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, qu'il a aussi été consultant d'un champion du monde, hein, d'échecs. Je vous laisserai découvrir lequel. Il a fait partie du team. Et puis, alors je crois que tu as une anecdote aussi à nous donner qui s'est passée dans les Landes et qui te concerne toi au premier chef, qui concerne Laurent Fraissinet aussi, et qui concerne Deep Blue.
À Mimizan, qui est une ville assez importante des Landes, est organisée une présentation radio, télé et internet où le grand match entre Kasparov et Dibou a été commenté, comme ça en direct. Il y avait une quinzaine de personnes dans la salle, évidemment des passionnés landais, des clubs d'Osgore, de Mimizan, de Dax, de Mont-de-Marsan. Et Laurent faisait la partie technique, commentait les coups de Diblou et de Kasparov. Et moi, je le secondais, en quelque sorte, pour donner un autre point de vue.
Oui.
C'est une grande expérience, effectivement, surtout de voir cette défaite dans la sixième partie. Ça nous avait beaucoup impressionné.
D'accord, alors maintenant, peut-être pour avant de qu'on arrive à à parler de ce fameux Philidor, peut-être tu peux nous en raconter un peu plus sur toi en tant que joueur d'échecs. T'as pas été que président, tu as aussi été joueur d'échecs, et aussi je crois que tu as une passion particulière en général pour les livres. Alors bon, pour tous les sujets, hein, je crois que tu es un grand lecteur de beaucoup de domaines différents, hein. Tu as été notamment architecte, donc on peut supposer que tu as lu beaucoup de livres sur l'architecture. Tu as donc cette grande passion de la lecture, et en particulier aussi de la lecture échiquéenne et des livres traitant du jeu d'échecs. Alors est-ce que tu peux nous parler de toi, de cette dimension de joueur d'échecs et de lecteur?
Ah oui, alors j'ai été étudiant à Paris et très vite, à côté de mon école d'architecture, j'ai trouvé un club d'échecs d'Enfer Rocheron, le rive gauche, qui a ensuite déménagé. Et évidemment, il y avait quelques librairies d'échecs à Paris que je fréquentais assidûment. Et c'est là d'ailleurs que j'avais trouvé un fac-similé de Philidor, bon, qui était un peu illisible parce que c'était, bon, j'étais débutant quand même et c'était en notation descriptive, mais ces librairies, on les fréquentait, on achetait tout ce qu'on pouvait acheter avec nos budgets d'étudiants. Et puis ensuite, fil en aiguille, des tournois, des compétitions internes dans les clubs, du jeu par équipe, et puis et une accumulation de livres d'échecs, effectivement. Et ça continue malgré le numérique, Internet, et il y a toujours plaisir de trouver un livre d'occasion, etc. J'ai toujours eu l'amour des livres, donc effectivement, même un livre d'échecs, un livre papier, l'objet physique papier aura toujours... enfin, j'ai une prédilection pour les livres, c'est certain.
D'accord. Et parmi tous ces livres, lesquels t'ont paru les plus intéressants? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de livres qui t'ont frappé le plus? Quelles sont tes lectures de livres? Bon, par exemple, pour moi, je vais donner un exemple me concernant. C'est un des premiers livres qui m'a marqué, évidemment, c'est « Mon système » de Nimzowitz. Je crois que c'est le premier que j'ai eu. D'ailleurs, c'était un double livre, hein, puisqu'il est en deux parties. Et voilà, c'est un des livres qui m'a marqué le plus, avec mes 60 meilleures parties ensuite de Bobby Fischer. Il y en a eu d'autres après, bien sûr, d'autres livres intéressants. Mais enfin, c'est les deux premiers qui m'ont marqué le plus. Et toi, quels sont...
Ces deux livres, effectivement, m'ont beaucoup marqué. Mais je dois reconnaître que le livre qui a été le facteur déclenchant, ça a été les échecs en 3 jours de Michel Benoît, qui était un champion de France, alors je ne sais plus en quelle année. Et ce livre, je me rappelle l'avoir lu un été, vraiment très... C'était un bonheur absolu. Et ensuite, j'achetais tout ce que je trouvais. Hein. Il y avait la collection des ouvrages Payot, tous ces livres, j'en ai retrouvé récemment. Par exemple, La perfection aux échecs, évidemment... Ces livres étaient fascinants parce qu'il y avait quelques diagrammes, des combinaisons qui étaient extraordinaires pour nous à l'époque. Hein. Il n'y avait pas tous ces bouquins. Et c'est ça qui nous a donné vraiment le goût des livres d'échecs et de vouloir approfondir, regarder des maths, etc. J'avais beaucoup aimé aussi, mais je crois que c'est un peu plus tard, la réédition de L'art de faire maths de Renaud et je ne sais plus qui. Champion de France, et j'avais beaucoup aimé ce livre également. Puis après, bon, il y a eu Les Informateurs, tous les livres qui sortaient, plus ou moins les encyclopédies, même en notation descriptive, etc. Les Walter Korn, les Batsford. Il y avait presque trop de livres à une époque.
Ouais.
Moi, je me rappelle, oui, la librairie Saint-Germain, c'était presque décourageant de se dire qu'il y avait tant à assimiler. Mais. Voilà, mais c'est toujours quelques livres un petit peu originaux, comme un livre sur les gambits, des choses comme ça, qui sont toujours un peu différents.
D'accord.
Pas seulement des litanies de
couverture. Et est-ce que tu as lu, est-ce que tu as vu, est-ce que ça t'a marqué aussi? Bon, c'est un des livres qui m'a marqué aussi beaucoup, je ne l'ai pas cité dans les deux premiers, mais en fait j'aurais dû, c'est les livres de Nicolas Giffard, et notamment sa partie historique, c'est-à-dire la fabuleuse histoire des champions des... Ah oui, alors ça c'est quand même un monument du jeu, je crois que ça, en termes historiques, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'égalable. La fabuleuse histoire des champions d'échecs, qu'on retrouve en fait, hein, qui est condensée dans... Le traité des échecs, guide complet de Nicolas Giffard, sauf que dans la fabuleuse histoire des champions d'échecs, il y avait beaucoup de photos, notamment avec cette fabuleuse photo de Fischer en couverture. Alors, cette partie historique, et notamment ce livre-là, je crois que tu l'as lu, oui, sans doute.
Ah, ben, bien sûr, je l'ai lu, c'est même le thème de l'avoir oublié, c'est un livre presque fétiche, d'ailleurs, la couverture est toute déchirée, tellement je l'ai manipulé, ce livre. Et c'était un bonheur, comme tu dis, de voir toutes ces photos qui nous faisaient connaître les champions. Je me rappelle d'une photo de Petrosian dans un champ contre une meule en été, une meule de foin, enfin des choses comme ça. Et puis les quelques diagrammes avec ces combinaisons et ce style inimitable de Giffard pour raconter. C'est un livre fantastique. Je me rappelle même, J'hébergeais à une époque à Paris un étudiant, quelqu'un qui préparait l'ENA. Il avait pris ce livre et il l'avait lu lui aussi. Il avait été tellement fasciné par ça, alors qu'il n'était pas joueur d'échecs.
D'accord.
Il est devenu un petit peu
ouais. ce livre. Et alors, on reviendra après en fin d'émission aussi, peut-être sur ta partie plus joueur, peut-être les tournois qui t'ont le plus marqué pour quelques anecdotes. Mais on va venir maintenant sur le cœur de notre émission, puisque c'est un peu l'actualité aussi en ce moment, puisque bien sûr, il y a cette nouvelle édition que je viens de sortir du Philidor, et on va parler de Philidor. On a parlé, c'est pour ça que je voulais parler de cette partie historique de Nicolas Giffard, parce que évidemment, s'il y a une place que prend Philidor quelque part, c'est bien dans la grande histoire du jeu d'échecs, et une place qui est une des plus importantes, très certainement. Tu vas pouvoir nous parler du Philidor, puisque comme tu nous l'as dit, tu as lu assez tôt une des vieilles éditions du Philidor, avec, tu as parlé de notation descriptive, on va sans doute y revenir aussi. Mais peut-être plus généralement d'abord, comment tu as connu Philidor et qui est Philidor pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire de Philidor?
Pour moi, je veux dire que je connaissais Philidor en tant que joueur d'échecs bien avant de savoir qu'il était un compositeur, de grand compositeur de musique. Je pense dans mes lectures, j'ai appris que Philidor, finalement, à travers l'histoire du jeu d'échecs, et quand j'ai pu mettre la main sur ce vieil ouvrage, ce facsimilé de l'analyse du jeu d'échecs, évidemment, j'ai regardé, hein, comme on étudiait les positions un peu classiques ou les origines de l'espagnol, Ruy López. Le côté historique des échecs est absolument passionnant, et Nicolas Giffard avait très bien présenté tout ça avant de rentrer dans le monde des échecs, de la compétition, ce qu'on a connu ensuite et qui nous a vraiment passionné, comme le fameux match de Reykjavik entre Fischer et Spassky, et plus tard, alors là il n'y avait pas internet, donc il fallait dégoter les petits articles dans le dimanche, je crois, par exemple dans le Sud-Ouest ou dans un autre filet dans le Monde. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Philidor. Et puis, avec un souci de bibliophilie, j'ai trouvé, alors je crois que c'était à l'Impasse Radicale, une librairie à Saint-Michel, vers l'Odéon, par exemple, j'avais trouvé ce fac-similé de l'analyse du jeu d'échecs. Mais c'était vraiment un livre qu'il fallait décrypter.
Oui, ça fait partie de ces vieilles éditions. Effectivement, notation descriptive, on va rappeler ce que c'est pour nos auditeurs, hein, c'est une notation un peu anglaise, où les cases n'étaient pas repérées par des coordonnées. Donc on disait, par exemple, pour jouer le coup, par exemple, G2, G4, on disait le pion du cavalier du roi pousse de deux cases. Voilà, par exemple. Ou alors, le pion du cavalier du roi va sur la quatrième case du cavalier du roi. Voilà, donc c'est très long à écrire d'abord, et à la lecture, c'est pas forcément simple à décrypter au premier coup d'œil, et on peut en plus se tromper. Alors qu'en notation algébrique, ce coup, on le noterait G4, voilà, tout simplement, on met rien quand c'est un pion, on précise pas la pièce, et on positionne la case de départ, et quand il y a une ambiguïté, on donne le nom de la colonne du pion qui prend. Par exemple, si c'est le pion F qui va en G4, on dit F prend G4, ou si c'est le pion H, on dira H prend G4, parce que si un pion change de colonne, c'est évidemment une prise. Voilà, donc ça c'est l'ancienne façon de parler du jeu d'échecs, de décrire les parties, cette notation descriptive qui nous vient plus ou moins du XVIIIe siècle et d'avant, très certainement, c'est sans doute très ancien, avant qu'on invente un peu les coordonnées, parce que les coordonnées telles qu'on les connaît aujourd'hui, cette façon de repérer des points sur un plan ou sur un échiquier, ben c'est assez récent finalement, c'est ça qu'on découvre en fait, en découvrant l'histoire du jeu d'échecs, c'est que c'est dans l'histoire de l'homme, c'est assez récent de pouvoir parler facilement et que tout le monde sache à peu près ce que c'est qu'une coordonnée, des coordonnées, ce qu'on appelle d'ailleurs cartésiennes, qui nous viennent de Descartes. Alors, sur ce Philidor, est-ce que au niveau historique, au niveau de la biographie de Philidor, tu connais quelques éléments ou pas, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus?
Si tu parles du livre d'échecs, bon, à part ce que je viens de dire, mais sur sa biographie, c'est par la suite que j'ai appris un petit peu qui il était. J'ai même acheté un disque, un CD du compositeur, très très belle musique, hein, bien entendu. Après, bien sûr, j'ai pu glaner ici et là quelques anecdotes. Je sais qu'il fréquentait le café de la Régence, qu'il était considéré comme le plus fort joueur de son époque, hein, du 18e, qu'il avait battu les plus forts, par exemple, notamment le Syrien Stama, qui lui-même était considéré comme un des plus forts joueurs du monde. Je sais qu'il pratiquait les parties à l'aveugle. Il était très fort à ça, et qu'il avait critiqué aussi la manière dont les livres d'échecs étaient, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais dont l'enseignement des échecs était réalisé, où souvent c'était des argumentations un petit peu péremptoires, sans démonstration réelle de l'efficacité d'une stratégie, etc. C'est ça qui était intéressant chez Philidor.
Oui, c'est ça. Donc effectivement, c'est ça qui l'a amené à vouloir écrire ce manuel, parce que visiblement, il n'était pas du tout satisfait de ce qu'il pouvait voir dans ce qui existait. Et de fait, effectivement, c'est sans doute son manuel, cette fameuse analyse du jeu d'échecs, qui est le premier manuel à la fois complet, puisqu'il traite à la fois un peu des ouvertures, mais surtout des fondements du jeu, les chaînes de pions, les colonnes ouvertes, etc. Et puis, on en parlera après, bien sûr, quand on analysera la nouvelle édition, mais et aussi les finales. Il va jusqu'au final et tous les maths simples sont passés en revue, tous, quoi. Je veux dire, il n'en oublie aucun. Et ça, c'est tout à fait. Et il explique tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas, en train de dire péremptoirement comme ça, ce coup est bon ou ce coup est pas bon. Il explique pourquoi. Et parfois, il fait même des commentaires assez longs pour bien expliquer le fond et surtout d'essayer de généraliser le concept. C'est-à-dire de dire, le concept qui est utilisé ici, vous pourriez l'utiliser dans d'autres circonstances. Essayez de comprendre de quoi il s'agit. Et ne pas apprendre uniquement tel ou tel coup par cœur, parce que les positions aux échecs, évidemment, sont très très nombreuses, et il vaut mieux connaître des principes généraux. C'est en cela, quelque part, il a une démarche qui correspond à l'ère du temps, c'est-à-dire qu'il commence à traiter le sujet de façon scientifique, en fait. Voilà. C'est le premier grand joueur d'échecs à écrire un manuel avec une volonté scientifique, donc une volonté de trouver quoi? Des concepts généraux, des concepts applicables en toutes circonstances, en fait. Voilà, c'est le truc. Alors, moi, comme anecdote, comme je peux le dire, mais je le sais depuis pas longtemps, en fait, c'est depuis cet été, donc nous sommes en 2014, je suis allé voir Amsterdam, je suis allé voir le fameux musée Maxev, qui est bien sûr un immense champion du monde dans les années 30, il a ravi son titre à Alekhine. Bon, on considère qu'il a un peu pris le titre un peu de façon un peu chanceuse, parce qu'Alekhine était considéré comme plus fort. Bah, toujours est-il qu'il est quand même dans l'histoire du jeu comme champion du monde. C'est un des grands joueurs hollandais. Et les Hollandais ne manquent pas d'ailleurs de lui rendre hommage et de tracer son histoire avec un musée qui lui est dédié, mais qui est au-delà de Maxev, était un musée des champions du monde aussi. Et dans ce musée des champions du monde, on trouve évidemment des références à Philidor, ça c'est beau quand même, et notamment on découvre, il faut absolument aller visiter ce musée, on découvre que Philidor a fait un voyage en Hollande, voilà, donc moi je connais pas le détail de ses pérégrinations à Philidor, je sais bien sûr comme toi qu'il était musicien à la cour du roi, en même temps qu'il a eu cette carrière échiquéenne. À la fin de sa vie il n'était plus que joueur d'échecs, hein, puisqu'il a fini sa vie à Londres à jouer aux échecs au club d'échecs de Londres, alors que c'était la révolution en France à ce moment-là. Et il fallait bien qu'il trouve une autre façon de vivre, puisqu'il n'était plus payé pour sa musique. Hein. Et il est allé en Hollande aussi pendant sa vie. Alors, je ne sais pas à quelle date exactement, mais il est allé faire un voyage en Hollande où il a donné des simultanés. Il a ébloui la Hollande par son haut niveau de degré de maîtrise du jeu d'échecs. Alors, Philidor, qui d'ailleurs, je crois, est enterré à Londres, mais il n'y a pas sa tombe. Je ne sais pas si tu connais cette histoire.
Je sais qu'il a... Il est enterré à Londres, j'ai dû le lire peut-être sur Wikipédia, je ne sais pas. Non, ça, je ne peux pas te donner d'informations là-dessus.
Ouais.
Ce que je sais, tu parlais de musique, il a quand même été passionné par Louis XV.
Oui.
Exactement. Ça, c'est bon quand même, c'est-à-dire qu'il était vraiment un grand musicien reconnu.
Oui, reconnu, à tel point qu'on est en 2014 et qu'on a encore des orchestres qui jouent du Philidor. Ne serait-ce que cet été d'ailleurs à Dieppe. Le club d'échecs de Dieppe, ils font un tournoi annuel l'été, a fait venir un orchestre qui joue du Philidor et qui a joué du Philidor pendant, pendant cet événement, et qui continue à être enregistré, puisqu'on peut trouver, moi je me le suis procuré, on peut trouver un CD de Philidor, et je crois que d'ailleurs la musique de Philidor est aussi disponible sur les plateformes musicales. On peut trouver à écouter les musiques de Philidor, qui sont tout à fait de belles musiques, hein. C'est très très agréable à écouter. Je crois que c'est de la musique, j'avais lu quelques critiques, alors je ne suis pas du tout un musicien, hein, donc ce que je vais dire, si vous êtes musicien, sera sans doute très en dessous du niveau auquel il faudrait qualifier la musique de Philidor. J'avais lu des critiques de musiciens de l'époque sur la musique de Philidor, qu'il a trouvé évidemment très bonne, mais je crois qu'il lui trouvait un cachet un peu 17e, c'est-à-dire que quelque part il joue de la musique un peu ancienne par rapport, il n'était pas aussi moderne, disons, que les modernes, quoi. Pour l'époque, hein. Je crois que bon, voilà, c'est ce que je peux dire
On lui reprochait également de s'inspirer un peu trop de la musique italienne.
Il a composé 21
opéras. Là, je lis la quatrième de couverture de mon CD. 21 opéras, quand même, c'est pas rien. Et des oratorios. Un grand musicien.
Ouais. Toi, tu t'y connais en musique un peu, Pierre, ou...
J'écoute beaucoup de musique, oui.
D'accord. Donc, tu peux... Alors, comment tu la qualifierais, cette musique de Philidor?
Ah, c'est une musique très classique au sens de cette musique du 18e, de cette musique, quand on imagine la grande musique royale, c'est vraiment cette sonorité très belle, hein, avec des chants, des ouvertures, des prologues, des composés en partie, de belles ouvertures. On a des mezzo-soprano, hein, qui chantent du Philidor.
D'accord. Et est-ce que tu crois qu'on pourrait en faire une pop musique moderne? Tu sais que, qu'on a un grand chanteur en France qui est Serge Gainsbourg, que tu connais bien sûr, bien évidemment, et qui, dans beaucoup de ses chansons, s'est inspiré de musique classique. Hein. On retrouve des passages de musique classique. Donc, par exemple, dans Bibi Nichols, c'est un passage classique. Alors, je ne sais plus quel est l'auteur, mais enfin, on reconnaît l'envolée. Et dans beaucoup d'autres chansons de Gainsbourg, on voit cette inspiration classique. Lui-même était un pianiste classique au départ, hein, c'est pour ça. Et donc, voilà, on a dans la pop musique moderne, on a comme avec Serge Gainsbourg, mais avec d'autres aussi, on peut retrouver des airs musicaux classiques qui ont été remixés ou qui sont des moments forts de ces chansons. Est-ce que tu penses qu'avec le Philidor, on pourrait faire des chansons modernes qui s'inspirent de ces envolées, de ces passages?
Tout est possible, mais je crois qu'on peut se contenter d'écouter la musique réinterprétée avec des grands orchestres, comme l'orchestre de chambre de Prague. C'est vraiment une musique très agréable à écouter, hein. C'est pas désuet du tout. Après, tout est possible, hein. Remixer, etc. Je m'avancerai pas là-dessus.
D'accord, ouais. Évidemment, bon, on est que des joueurs d'échecs, excusez-nous, hein, si vous êtes musicien, et peut-être un jour on aura un musicien qui nous parlera de Philidor, pourquoi pas, de la partie musicale de Philidor, sur Fréquence Diagonale, pourquoi pas, hein. Dans ce cas-là, il faudrait qu'il me contacte, hein, si vous êtes musicien, que vous connaissez un musicien qui connaît la musique classique et qui connaît Philidor, qui pourrait nous en parler en termes musicaux, pourquoi pas qu'il me contacte et qu'on essaie de voir si on peut faire une émission sur ce sujet. Alors, donc on va venir, bon, je crois qu'on va arriver déjà à notre première petite pause, hein, dans Fréquence Diagonale, si tu veux bien, Pierre. Et dans la deuxième partie, on va enfin parler de ce Philidor 2014, cette nouvelle édition que tu as été un des premiers à te procurer et à lire. Et je crois que tu vas nous raconter ça, parce que je crois que tu as lu ça avec passion et tu l'as littéralement dévoré, hein, puisque je crois qu'un jour déjà tu avais déjà joué tous les coups et je crois qu'après tu es revenu dessus. Donc on va voir ça juste après. On va se donc faire une petite pause musicale justement avec une musique. Tu sais comment sont les musiques sur Fréquence Diagonale, Pierre?
Je crois savoir que ce sont des musiques en Creative Commons.
Voilà, exactement.
Ce sont licence libre.
Voilà, licence libre, comme le podcast, hein, qui est aussi en licence libre. Hein, c'est-à-dire que vous avez le droit de le copier et de le diffuser sans besoin de le signaler, juste en citant la source, ça suffit. Voilà, donc on se retrouve juste après donc cette première pause musicale sur Fréquence Diagonale. À tout de suite. Voici de retour sur Fréquence Diagonale, toujours avec Pierre Tesserenc, le Gascon, le Landais, président du club de, ancien président du club de Dax, qui a connu l'émergence de Laurent Fraissinet, qui est un grand passionné du jeu, un grand passionné de la lecture, des livres d'échecs, des livres d'échecs en général, de l'histoire du jeu, et en particulier donc qui s'est passionné pour ce Philidor 2014. On a parlé dans la première partie, Pierre, hein, donc un peu de, assez généralement, de Philidor, un petit peu des éléments qu'on connaissait sur sa vie, qui pour l'instant, qui sont un peu épars, mais qui sont là. Et puis, on a parlé de ces anciennes éditions du Philidor, notamment ben, les seules, les quelques facsimilés qu'il y a eu au XXe. C'est, alors, les facsimilés, c'est des copies, c'est-à-dire c'est pas vraiment des nouvelles éditions, ce sont des copies de livres déjà édités. Mais les éditions multiples hein, ont eu lieu après 1777 et la première édition ont eu lieu tout le long du 19e siècle. Il y en a eu beaucoup, On peut encore en trouver quelques éditions du 19e siècle sur Internet. Quelques libraires en ont encore quelques exemplaires disponibles pour des prix tout à fait abordables. Mais ce sont donc des livres difficiles à lire. Et donc arrive cette nouvelle édition du Philidor. Alors Pierre, tu vas nous en parler. Comment tu as découvert ce livre et puis qu'est-ce que tu en as fait, quoi?
Comment j'ai découvert ce livre? J'ai été informé qu'il existait, et dès que j'ai vu que c'était toi qui l'avais réalisé et que c'était une édition totalement modernisée, ça m'a beaucoup intéressé, donc je l'ai commandé bien sûr. Et je dois te dire que à réception, j'ai dû le recevoir vers 14h, je me suis mis à le lire avec du café à côté et je l'ai fini à 2h du matin. Voilà. Ce livre est vraiment remarquable parce que d'abord il y a beaucoup de diagrammes, il est très lisible, enfin je parle de la typographie. Cette modernisation, ça veut dire que maintenant on a vraiment la notation moderne des coups. Et non seulement il y a cette modernisation que tu as réalisée, Stéphane, mais il y a également le côté moderne de Philidor, c'est-à-dire qu'on y trouve tout. On y trouve les structures de pions, les colonnes ouvertes, l'importance du développement du cavalier, on y trouve les finales de tours et pions contre tours, enfin, extraordinaire, ou tours et fous contre tours. On en a vu un exemple d'ailleurs lors du championnat du monde entre Anand et Carlsen récemment, là. Ou Carlsen qui a conservé son titre. Si je dis pas de bêtises, il y a bien eu à un moment donné, on était dans du enjeu, il jouait du Philidor. Je sais plus si c'est Anand qui connaissait son Philidor sur le bout des doigts, je peux dire. Voilà. Donc un livre remarquable, des parties, voilà, je pense, recomposées, qui servent à démontrer telle manière de développer les pièces, le pourquoi du comment, pourquoi occuper telle colonne, pourquoi garder l'opposition des fous. Ensuite, il y a il y a certaines ouvertures un peu désuètes, c'est normal, hein, le pion du roi, le gambit du roi, on a un gambit dame qui est très intéressant. Et ensuite, on a des finales qui sont toujours d'actualité, c'est extraordinaire. Dame et pion. Tour, comme je l'ai dit, tour et fou contre tour, ou tour et pion contre tour, et ça c'est remarquable. Donc c'est vraiment un traité complet.
Oui, alors c'est effectivement, il est complet. C'est ça aussi, moi, qui m'a fasciné, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu. Moi, au départ, en fait, je l'ai pas fait vraiment pour le diffuser au tout départ. J'ai voulu le traduire tout simplement pour pouvoir le lire, hein, parce qu'effectivement, comme tu disais, ces anciennes éditions sont difficiles à lire et sont assez, assez même pénibles à lire, je veux dire, parce que les commentaires sont relégués souvent en bas de page, et on a une série de coups, il faut se reporter aux commentaires à chaque fois qu'on en veut un. Donc si on n'a pas d'échiquier à portée de main, on ne peut pas le lire vraiment, il faut vraiment le jouer sur un échiquier. Et je voulais qu'on puisse le lire vraiment sans échiquier, même si avoir un échiquier c'est toujours mieux, bien sûr, mais là on a quand même un diagramme tous les 4-5 coups. Mais alors effectivement, au niveau du contenu, ce qui est tout à fait, comme tu disais, étonnant, c'est cette exhaustivité qu'il y a, et en particulier dans les finales. Il les traite toutes, c'est-à-dire qu'on a y compris roi et pion contre roi, et on a aussi ne serait-ce que la finale fou et cavalier contre roi, qui est quand même une finale importante aussi à connaître, même si elle arrive très très peu souvent. Je crois qu'en compétition ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois quand même. Bon, ceci dit, j'ai fait quand même pas mal de parties, c'est vrai. Ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois, peut-être pas en partie lente, mais en partie rapide ou blitz, ça a dû m'arriver. Donc c'est assez rare, mais je crois que cette finale est quand même importante à connaître. Parce que le mat est forcé, mais lent, il faut genre. Je crois que Philidor, à un moment donné, nous annonce le mat en 20. En 17 coups, je crois, quelque chose comme ça. Donc il annonce un mat en 17 coups. Mais cette finale permet de comprendre comment fou et cavalier sont complémentaires. Et ça, c'est intéressant. Parce que, avec cette finale, en maniant fou et cavalier dans cette finale, on apprend à mieux manier ces deux pièces essentielles que sont le fou et cavalier et comment ils peuvent être complémentaires. Ce qui va nous servir après, plus tard, quand on maîtrise cette finale, à pouvoir manier ses pièces avec plus d'efficacité en début de jeu, ou voire même en milieu de jeu, voire en finale. Donc parfois, connaître une finale, c'est aussi, pas forcément uniquement savoir mater dans ce cas-là, mais aussi nous aider à trouver les bons coups dans des positions un peu plus complexes où ses pièces sont déjà présentes. Donc en faisant l'exhaustivité des finales, Philidor nous apprend une exhaustivité concernant le maniement des pièces. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pour ça que ce manuel est complet, outre les, bien sûr les principes généraux que tu as édictés. Alors, est-ce qu'il y a sur ces schémas, est-ce que tu peux nous dire d'autres éléments concernant les parties que tu as pu lire, lesquelles t'ont marqué, ou comment ça se fait que tu as lu tout d'un trait, quoi? Moi, ça m'a étonné quand tu m'as dit ça. 14h jusqu'à 2h du mat, parce qu'il faut, manger quand même entre temps, non?
Oui, je fais des ravitaillements en vin, évidemment, mais très, très rapide. Il faut aller surtout boire un peu de café pour rester concentré. Ce que je voulais juste, avant de finir de répondre, remarquer qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ces finales, qui restent des classiques, des bases qu'il faut connaître, c'est qu'on reconnaît le Philidor au musicien, puisqu'en fait, il est en train de faire des gammes, à réviser nos gammes. Parce qu'on peut toujours les relire, ces finales, plus on les connaîtra, plus on maîtrisera ces phases un peu délicates de fin de partie, et comme tu disais très justement, apprendre à coordonner l'action de manière harmonieuse entre un cavalier et un fou pour mater, il faut un certain nombre de coups pour y arriver, c'est en rejouant, en refaisant ces gammes qu'on peut y arriver, parce que c'est retrouver tous les coups systématiquement si on n'a pas répété plusieurs fois. Donc voilà l'intérêt aussi de ces finales, c'est qu'elles sont faites pour être étudiées inlassablement. Oui, dans ce livre, ce qui m'a beaucoup plu, c'est déjà cette clarté, cette notation, et puis le fait qu'il y ait des diagrammes à foison, c'est-à-dire que, bon évidemment, c'est bien calculé d'ailleurs, je dirais un diagramme tous les 5 ou 6 coups, tous les 10 demi-coups, qui permettent de suivre parfaitement les parties. Alors ce qui m'a intéressé, tout m'a intéressé, j'ai été très sensible au fait qu'il y a une sicilienne qui est analysée, un gambit dame que je joue beaucoup, et puis évidemment c'est final, et même si certaines sont plus faciles, plus connues, comme dame contre dame et pion, ou plutôt dame et pion contre dame, c'est l'intérêt, c'est la fluidité, c'est les variantes qui sont indiquées, qu'on trouvait autrefois comme des renvois ou des renvois de renvois qui rendaient la lecture encore plus complexe et difficile à suivre, et là tout s'enchaîne parfaitement.
D'accord. Alors, je vais lire, tu viens de parler de la sicilienne, je vais quand même lire ce passage parce que c'est quand même exceptionnel, il faut le lire. Alors, j'ai rajouté quasiment rien dans le Philidor, j'ai laissé Philidor parler, j'ai juste essayé de traduire ses coups descriptifs en algébrique. Et éventuellement, quand c'était difficile à comprendre ce qu'il voulait dire, j'ai un peu modernisé le texte parce que parfois c'était vraiment difficile. Hein. Je ne peux pas revenir sur les détails, mais je vous assure que si vous lisez la première version, vous allez avoir du mal. mais je vais dire quand même l'introduction de donc, cette sicilienne, donc premier coup E4, C5, bon peu importe, les joueurs d'échecs connaissent, mais ce qui vous intéresse c'est plus le commentaire, alors j'ai mis un petit commentaire, cette partie a été donc rajoutée dans l'édition de 1777, ça veut dire que dans la première en 1749, il n'avait pas estimé bon de la mettre, alors il faut savoir qu'en 49, Philidor n'a que 23 ans, hein, puisqu'il est né en 1726, donc il a... Il a écrit ce Philidor jeune, hein, la première version, et en 1777, il est donc bien plus âgé, puisque donc ça lui fait 51. Donc cette partie rajoutée dans l'édition de 1777 est appelée originellement, et je l'ai rappelé quand même, « Autre manière de jouer ». Voilà, donc il n'y avait pas de nom pour cette ouverture. « Autre manière de jouer ». Et donc je précise que c'est une sicilienne, ouverture peu connue, donc elle peut jouer à l'époque. Voilà. Alors que nous dit Philidor après E4 C5? Je le dis quand même, parce que c'est quand même... voilà, c'est intéressant de savoir comment il qualifie ce début. Cette manière d'ouvrir le jeu lorsqu'on n'a pas le trait, hein, donc de jouer C5 finalement, hein, est absolument défensive. Voilà, il estime que c'est défensif, sans toutefois être la meilleure. Il estime donc en plus que c'est pas la meilleure façon d'ouvrir le jeu. Surtout si l'on fait avantage. Bon, alors si on fait avantage, évidemment, c'est dans les cas où on donne à l'adversaire un pion ou une pièce. Alors, ça, à l'époque, ils étaient friands de ça. Quand il y avait un gros écart entre les joueurs, ils donnaient un pion, comme on fait au golf d'ailleurs. Je crois qu'au golf, il y a du handicap. Hein. Voilà, c'est donc à l'époque, ils jouaient avec handicap, ils n'hésitaient pas. On ne fait plus ça du tout. Hein. Mais bon, c'est intéressant à noter. Donc, surtout lorsqu'ils ont fait avantage, donc il faut se reposer positionné dans l'époque pour comprendre de quoi il parle. On le voit d'ailleurs à la fin, puisqu'il y a les règles où il parle des règles concernant l'avantage. Voilà, mais elle est très bonne pour pouvoir apprécier les forces de l'adversaire dont on ne connaît pas le jeu. Ça, c'est bien, c'est intéressant ce qu'il nous dit là. Hein. De jouer un début inhabituel, finalement, peut être une bonne façon d'apprécier les forces d'un adversaire dont on ne connaît pas le jeu. Et peut-être là, on peut retrouver une stratégie qui, plus tard, va être employée par Lasker et peut-être même Karsian aujourd'hui, qui est d'essayer justement de jouer des ouvertures peu jouées pour essayer d'amener l'adversaire dans la force pure et non pas dans la connaissance théorique, en fait. Je crois qu'avec ce simple commentaire, on a les prémices d'une façon d'aborder le jeu à la Lasker ou à la Carlsen que déjà Philidor avait anticipé en jouant cette autre manière de jouer selon lui, donc la sicilienne pour nous à l'époque, c'était à l'époque, bien sûr aujourd'hui c'est plus le cas, la sicilienne aujourd'hui est très jouée et on estime que c'est sans doute un des débuts, les, au contraire non pas les moins bons mais au contraire les meilleurs. Hein, bon, mais à l'époque ça se jouait peu, donc pour lui c'était pas le meilleur. Mais en comprenant qu'à l'époque c'était peu joué, c'est de comprendre que voilà, on joue un début inhabituel, vous amenez l'adversaire en position inconnue pour lui, et donc la force brute des joueurs va mieux se révéler. C'est-à-dire que c'est pas la connaissance théorique qui fera la différence, alors qu'évidemment si vous jouez contre un adversaire qui connaît très bien une ouverture et que vous l'amenez sur cette ouverture, ben vous ne ferez pas jouer la vraie différence de force. Vous ferez jouer la meilleure connaissance de la théorie et des coups. Voilà, ça c'est un conseil intéressant, non ?
Oui, c'est très intéressant. Je pense qu'effectivement, à l'époque, à part E4-5, c'était essentiellement les parties s'orientaient dans ce type d'ouverture. Donc C5, comme tu l'as dit, c'était un petit peu précurseur des débuts hyper modernes, même s'il n'y a pas de fianchetto tout de suite, à part si on imagine les dragons pour les noirs. C'était une manière de déjouer les parcours des adversaires de l'époque, et en même temps il a creusé ainsi des ouvertures qui ont été extrêmement développées depuis.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, en relisant ce Philidor, est-ce qu'il y a des points stratégiques qui t'ont encore sauté, disons, à l'esprit, qui t'ont encore été révélés en relisant ce Philidor comme ça modernisé? Est-ce que à ce moment, est-ce que tu pourrais nous dire un point ou deux qui te paraissent, que tu avais un peu oublié peut-être, et qu'en relisant le Philidor, ils te paraissent de nouveau essentiels, et en te disant, ben oui, non, mais c'est vrai que j'avais oublié ce point essentiel du jeu et que dans mes parties, j'aurais intérêt à en tenir compte.
Oui, alors ce qui m'a le plus frappé, je ne me rappelle plus du tout de ça d'ailleurs, quand il disait qu'il fallait d'abord jouer le pion et mettre le cavalier derrière, par exemple, au lieu de jouer cavalier F3, F4 et cavalier F3 ensuite. Ça, il jouait par exemple cavalier 2. Donc des choses comme ça, c'est ça m'a paru un peu particulier, tout à fait personnel, Philidor. Par contre, ce qui est universel, c'est l'occupation des colonnes, c'est la manière de jouer le pion, c'est tous ces grands principes qui sont la base, qui sont la solidité d'un jeu un peu expert. C'est évident que c'est chez Philidor qu'on trouve ces principes qui n'ont pas été réfutés.
Oui, et est-ce que dans ton jeu, tu as l'impression que souvent tu ne les respectes pas, ces principes?
Bien sûr, surtout quoi. Comme tout le monde, je suis un adepte du jeu très rapide, du blitz et du bullet, c'est encore plus rapide que le blitz, donc là forcément on commet des erreurs, mais il y a quand même certains principes qui, par expérience, par les tournois, par le travail, l'étude des échecs, on essaie de les appliquer. Après, peut-être on oublie, mais l'occupation, le contrôle des colonnes, ne pas laisser justement la colonne à l'adversaire, c'est un principe qui devient presque un réflexe de joueur d'échecs.
Alors, est-ce que pour finir sur cette partie hein, de Philidor, et puis après peut-être dans une dernière partie sur l'émission, on va parler un peu plus, on va revenir peut-être plus dans ton actualité de joueur d'échecs et aussi de passionné, de spectateur comme moi, hein, d'échecs, de savoir comment on peut en pratique, dans l'actualité qui nous attend dans les mois qui viennent, suivre le jeu d'échecs tout en bénéficiant de cet apport comme ça de l'histoire du jeu et de Philidor en particulier. Est-ce que ça t'a frappé aussi cette partie les règles du jeu de 1777, cette dernière partie
Ah oui, je trouvais ça un petit peu désuet, ça m'a paru un peu étrange ce côté règlement, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, mais c'était comme ça un aspect documentaire qui est tout à fait intéressant.
Ouais, alors moi je pense que alors, d'abord c'est intéressant au niveau historique de les avoir. Bon, c'est pour ça que je les ai reprises, même si bien sûr aujourd'hui c'est pas vraiment ces règles-là qui sont appliquées. Mais on retrouve l'essentiel des règles. Alors il y a ces règles concernant l'avantage, mais il y a aussi des règles concernant des particularités même géographiques de l'époque, puisqu'en Angleterre on jouait pas comme en France. Alors pour en parler peut-être un peu avec toi, je ne sais pas si tu connaissais ça, mais je vais lire la règle numéro 16. Édité par Philidor dans ce manuel. Lorsqu'on n'a rien à jouer, règle numéro 16, donc, lorsqu'on n'a rien à jouer et que le roi étant hors d'échec ne peut bouger sans s'y mettre, la partie est pâte. On comprend très bien ce point. En Angleterre, alors ça c'est que, hein, celui dont le roi est pâte gagne la partie. En France et dans plusieurs autres pays, le pâte est une partie nulle. Donc déjà en France et dans plusieurs autres pays, la partie était nulle, mais en Angleterre, le pat faisait gagner la partie. Hein, note de Philidor, hein, c'est pas de moi, c'est de Philidor. Hein. Cette règle est établie sur la décision de différents auteurs, donc on voit bien qu'à l'époque, ce sont les auteurs, les écrivains, ceux qui écrivaient finalement, qui ont établi la décision sur ces règles. Et donc cette règle est établie sur la décision de différents auteurs, et notamment elle se trouve dans l'édition du Calabré. Alors voilà un autre livre... intéressant, le Calabré, bon, mais qui est ancien de presque plus d'un siècle, hein, par rapport à Philidor, puisqu'il nous précise, imprimé à Londres, donc déjà ça avait été imprimé à Londres, en 1656. Voilà. Donc on voit que là, on est plutôt en 1700, donc 1749, quasiment un siècle après, ou 1777, même encore un peu plus loin. Plus précisément, un siècle et demi après cette règle, qui reste valide en Angleterre, où le pat fait gagner la partie. Ça peut nous étonner, hein, et on se rappelle quand on lit ça, je sais pas toi Pierre, mais on se rappelle quand on est petit, peut-être qu'on apprend à jouer, que parfois ben, on sait pas trop ce qui se passe quand il y a un pat, voilà, on hésite à dire si on a gagné ou pas gagné, quoi.
Oui, c'est exact. Ça nous arrive à tous de dire, ah ben non, c'est parti nul, ou c'est moi qui ai gagné parce que t'as pas réussi avec tout ton matériel à me faire mettre, etc. Toutes ces règles sont quelquefois un peu étranges. J'ai vu quelque part qu'il y a même des parties qui se commençaient avec le noir, ça j'ignorais, je ne sais pas où j'ai lu ça, peut-être dans ta préface.
Oui, c'est ça, exact. Oui.
Ça c'est quelque chose qui m'étonnait beaucoup. De même que je me suis toujours demandé pourquoi les tout débutants pensent qu'on peut jouer deux pions d'une case au lieu d'un pion de deux cases.
Oui.
Je sais pas d'où ça sort, ça.
Oui. Oui, bah, je crois qu'il. Bah, oui, alors là, on verra que dans ces règles, ça n'existe pas. Hein, donc, c'est pas une règle, en tout cas, qui était usité à l'époque, donc ça a peut-être jamais existé. Mais par contre, alors, je vais lire un autre point où on verra quand même que les règles commencent à être vraiment modernes et que, en fait, ça n'a pas trop bougé depuis le 18e, en fait, hein, à part le fait des règles de l'avantage, mais l'avantage, ça ne peut pas concerner les tournois officiels, bien entendu. Mais on va lire la règle 17 aussi, qui est quand même intéressante, parce qu'on va retrouver quand même quelque chose de très moderne. Dans toutes les fins de partie, hein, lorsqu'un joueur ne paraît pas pouvoir faire les maths difficiles, voyez bien, il précise bien les maths difficiles, tel celui du cavalier du fou, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, qui est sans doute le maths simple le plus difficile, mais le plus beau peut-être aussi. Dans toutes les fins de partie, lorsqu'un joueur ne paraît pas pouvoir faire les maths difficiles, tel que celui du cavalier et du fou contre le roi, celui de la tour et du fou contre la tour, etc. Et tour et fou contre tour, oui, non, c'est un maths difficile, parce que bon, c'est pas maths tout le temps, c'est maths dans certaines positions, avec maths forcé, mais pas dans toutes les positions. Sur la roquette de l'adversaire, on fixera 50 coups de chaque côté la fin de la partie. Lesquels coups passés, elle sera censée être nulle. Donc on a déjà la règle des 50 coups.
Oui, c'est extraordinaire, oui, bien sûr.
Et voilà, la règle des 50 coups qui est déjà là. Et donc je pense que si on est arbitre du jeu, et on a quelques arbitres, hein, bien sûr, fameux maintenant, hein, du jeu hein, en France et dans le monde, des arbitres de niveau international, qui sans doute devraient s'intéresser à l'histoire comme ça, des règles du jeu aussi, que je pense que dans cette histoire de l'évolution des règles du jeu, il y a peut-être des enseignements à prendre et puis un plaisir aussi à voir comment, petit à petit, les règles du jeu d'échecs se sont affirmées. Voilà. Et quand on lit le Philidor avec ses règles, on voit bien que dès le 18e, ici, les règles commencent vraiment à se figer dans leur version moderne et n'ont plus vraiment trop bougé depuis, même si bien sûr il y a des règles en plus aujourd'hui, parce que ne serait-ce que à l'époque déjà il n'y avait pas la pendule. C'est-à-dire que la pendule a ajouté une dimension au jeu qui lui ont donné des règles supplémentaires et qui aujourd'hui bien sûr existent et qui ne pouvaient pas exister à l'époque, il n'y avait pas cette notion de pendule à l'époque de Philidor. Alors, bon, écoute, voilà ce qu'on peut dire sur ce livre. Je te remercie, Pierre, hein, d'avoir participé hein, à cette émission pour en donner ton avis de lecteur. Et on va continuer sur ton parcours aussi de joueur d'échecs. Je sais que tu restes un grand passionné du jeu, qui y compris va dans les événements échiquéens, qui va, quand il peut, dès qu'il peut, va voir... les grands événements quand il y en a et qui ne sont pas évidemment de l'autre côté de la Terre, il ne faut pas que ça soit trop loin non plus bien sûr, mais je crois que tu te déplaces aussi, tu vas voir quand c'est possible. Et alors comment tu vois l'actualité des prochains mois pour ce qui te concerne? Est-ce que tu vas suivre des grands tournois? Est-ce que tu attends des événements particuliers? Comment tu organises ton suivi de l'actualité internationale du jeu?
Grâce à Internet, bien entendu, tous ces sites qui permettent de suivre les parties coup par coup avec les moteurs d'analyse, tous les passionnés nous régalons. À une époque, on avait la possibilité de se déplacer. Je me rappelle, j'ai été à Lyon en 90 pour suivre la deuxième partie du match entre Kerpev et Kasparov. Ça, c'était un très très grand souvenir, extraordinaire. Tous les grands prix qui ont lieu à Paris avec les meilleurs joueurs du monde, les Anand, les Kasparov, les Beliavski. C'était des grands spectacles où déjà les parties étaient un petit peu accélérées pour rendre le spectacle plus attrayant pour le grand public. Il y avait majoritairement des passionnés. Et maintenant, il faut reconnaître qu'on peut suivre sur Internet, non seulement sur des échiquiers, mais avec des caméras. C'est-à-dire que maintenant, tous les grands tournois, il y a pratiquement une caméra par table, avec de la très haute définition, plus de commentaires en direct par des grands maîtres, y compris ceux qui participent une fois qu'ils ont terminé, ils viennent commenter leur partie, avec des diagrammes. Multiples, multimètres, où on peut suivre, voir exactement ce qui aurait pu être joué, etc. Enfin, c'est merveilleux, il n'y a plus besoin de bouger. Et évidemment, rien ne remplace une partie avec un adversaire, soit une partie amicale, comme je pratiquais ça souvent aussi, ou en tournoi. Mais de nos jours, sauf si un grand événement arrive, bien sûr, quand Kerpev est venu à Bordeaux, grâce à toi, je suis allé voir. C'était fantastique. Ou avec Saint-Provence.
Je crois que tu as d'ailleurs un échiquier signé Kerpev. Tu as joué une simultanée avec Kerpev et tu as un échiquier signé.
Oui, ça c'est magnifique. Un échiquier tout neuf sur lequel il y a eu seulement 7 parties jouées. Kerpev et moi, évidemment, j'avais beaucoup étudié ces parties pour essayer de jouer... tenir un peu plus longtemps que la normale. Et puis, par respect, dès l'instant où j'ai perdu un pion, j'ai abandonné tout de suite. Mais c'est un grand souvenir, effectivement. Cet échiquier ici, signé, de Kerpov.
Et alors, par rapport au jeu sur...
J'avais profité, pardon, de lui faire signer quelques livres de ses meilleures parties.
Ouais. Voilà. Oui, bien sûr, ça c'est toujours évident, il faut le faire. Si vous rencontrez un grand maître qui a écrit un livre, si vous pouvez lui faire dédicacer, évidemment, c'est toujours mieux. Et je voulais dire sur le jeu sur Internet, alors évidemment, on peut suivre les grands tournois, bien sûr, aujourd'hui, quasiment tous, hein, avec une grande facilité et une bonne condition de suivi, hein, ce qui est bien au niveau spectateur, bien entendu. Et au niveau, je crois que tu joues aussi sur Internet, très probablement, sur des plateformes de jeux. Est-ce que tu...
Bien sûr, oui, j'ai tout essayé, je joue sur tous les sites, avec pseudo ou sans pseudo, sur tablette, sur grand écran, petit écran, enfin, dès que j'ai une occasion, et effectivement, ça fait un plaisir immense de plus pour blitzer, il faut dire. C'est vraiment pas toujours des très belles parties, mais au moins c'est.
Ça permet de faire. Ça permet de faire des gammes.
Pardon?
Ça permet de faire des gammes.
C'est vrai, j'entendais récemment Peter Swindler qui disait, comme conseil, il répondait à l'internet, il faut jouer tout le temps, le plus possible, avoir tous les moyens, que ce soit les bouquins, l'internet, et il ne désavouait pas du tout le fait très important de jouer beaucoup sur internet, d'être confronté toujours à des positions nouvelles, à des cas de figure particuliers. C'était le meilleur moyen de progresser, jouer tout le temps. Ce qui paraît une évidence, mais même faire des parties un petit peu, comment dirais-je, pleines de coquilles, pleines d'erreurs, on se corrige peu à peu.
D'accord. Alors je vais...
Évidemment, un débutant, il ne faudrait pas me conseiller ça, parce qu'il pourrait, c'est ce que disait Svedler d'ailleurs, il pourrait prendre de mauvais plis, prendre de mauvaises habitudes.
Oui. Bien sûr. Oui, alors mais
c'est par lire le livre Philidor, analyse du jeu d'échecs.
Mais je crois qu'il faut faire les.
Oui, oui. Une bonne chose parce que oui. C'est ce que j'ai testé d'ailleurs juste après avoir lu ce livre. Je me suis mis sur internet et je me sentais beaucoup plus fluide dans le jeu. C'est extraordinaire.
Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il faut, bien sûr, il faut allier les deux. C'est-à-dire qu'il faut la pratique et l'étude. C'est-à-dire que je pense qu'il On peut s'améliorer grandement, y compris même en jouant des blitz sur Internet, à condition de ne pas faire que jouer justement, mais de voir aussi des concepts profonds qui nous sont donnés par conseil dans des livres. Alors le Philidor, bien sûr, pourquoi pas, mais il y a aussi bien d'autres livres, bien sûr, qui existent. À la limite, du moment qu'il est bien écrit, ça doit bien fonctionner. Et c'est bien aussi de faire un peu comme ça de théorie en profondeur. Et là, même votre jeu rapide sera amélioré. Et vous allez progresser. Alors, je vais quand même en profiter pour faire une petite promotion sur une nouvelle plateforme qui est assez récente, mais qui est en open source, c'est-à-dire donc en licence libre, c'est-à-dire c'est un programme libre qui respecte donc les quatre libertés logicielles de Richard Stallman. Donc, comme le podcast, comme Fréquence Diagonale, le podcast qui est sous licence libre avec des musiques libres aussi pour agrémenter le podcast. Vous avez là une plateforme qui a été développée, dont le code est libre et publié, donc vous pouvez y compris récupérer le code et le faire tourner sur vos propres serveurs si vous voulez, ou directement aller jouer sur ce site, mais qui est sous licence libre, donc ça c'est très intéressant. Ça s'appelle Lichess, L-I-C-H-E-2-S, lichess.org. .org. Ah, donc c'est déjà très très bien abouti. On peut lancer des tournois. Alors pour l'instant c'est un système de tournois très curieux, une espèce d'arène. C'est un peu spécial, il n'y a pas encore le système suisse, mais c'est en cours de développement. Mais justement, ce qui est bien dans ce type de projet, c'est que le programme est en licence libre, en jouant au jeu et en participant à la réflexion dans le forum sur le jeu, etc. On peut influer sur le développement. Parce que les développeurs vont écouter ce que les joueurs demandent et en même temps donc ils vont adapter leur code, voilà. Et si on est développeur soi-même en plus des joueurs d'échecs, comme c'est mon cas d'ailleurs, quand on aime l'informatique, eh bien on peut aussi donc participer au développement de ce jeu et garder le code pour soi et le partager avec autrui puisqu'il est sous licence libre. Et donc c'est tout l'intérêt qu'on n'a pas forcément sur les plateformes qui restent ce qu'on appelle les plateformes non libres, hein, on va dire tout simplement pour les qualifier, où le code reste la propriété des développeurs, il ne donne accès qu'à l'utilisation, qu'au jeu, et non pas à sa programmation. Voilà, donc lichess.org, c'est une des nouvelles plateformes sous licence libre qui permet de jouer aux échecs, en tout cas, au moins une. L'internet étant vaste, je ne peux pas tout voir, mais je l'ai découverte, évidemment, il n'y a pas très longtemps, j'y contribue, en notamment la proposant sur Diagonal TV, on peut aller y jouer, directement, et vous pourrez découvrir cette plateforme. De quoi tester ce que vous lisez dans les livres. Je crois que c'est important de lire. C'est pour ça que on a fait cette émission spéciale livre, et puis bien sûr on en a profité pour parler de ce Philidor. Mais c'est aussi une émission qui fait un hommage au livre d'échecs. On a parlé de Nicolas Giffard, on a parlé de Benoît, d'Alain Benoît, tu as parlé. On a parlé des livres de Karpov. Oui.
Michel Benoît.
On a, et voilà, et bien sûr il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait d'excellents livres, hein, qu'il faut lire, et parmi eux bien, il y a les grands moments de l'histoire du jeu dont ce Philidor. Merci Pierre, hein, pour avoir participé à cette fréquence diagonale spéciale histoire du jeu, spéciale livre et spéciale donc Philidor.
C'est moi qui te remercie, Stéphane.
Et puis, évidemment, on t'envoie nos meilleures salutations depuis les studios Fréquence Diagonale pour Dax, pour les Landes, et puis sans doute avec forcément une petite pensée aussi pour Laurent Frissinet, évidemment, qu'on aime beaucoup en Aquitaine. C'est le premier grand maître d'Aquitaine, hein, faut pas oublier. Bon, je suis aussi Aquitain, hein, je suis parisien actuellement, mais je suis Aquitain de cœur. Donc c'est le premier grand maître Aquitain, et on en a un deuxième maintenant, puisque c'est Mathieu Cornette. Hein. Voilà, mais Bordelais, mais Aquitain. Hein. Voilà. La région va s'agrandir d'ailleurs maintenant avec la réforme.
Ah oui.
Hein, voilà.
Ben,
ouais, on va peut-être récupérer des joueurs. Donc, merci Pierre, on te donne rendez-vous pour une prochaine. Ah oui, je crois qu'on a un petit truc à dire aussi, c'est que tu as un blog, hein, qui s'appelle Échéphilie et plus. Voilà, Échéphilie et plus.
Je ne l'ai plus depuis longtemps. Il est arrêté dernier championnat de France.
Oui, il s'est arrêté, mais il y a des choses à trouver dessus.
Il y a des choses, notamment pour les problémistes, il y a beaucoup de problèmes, c'est très intéressant.
Voilà, Échéphilie et plus, on mettra l'adresse aussi dans la page du podcast, hein, on mettra le lien. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci aux auditeurs, hein, sur Fréquence Diagonale, ce nouvel épisode, et puis je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. À une prochaine fois. Merci à tous. Jouez aux échecs. Lisez, apprenez et prenez du plaisir. Merci à tous. Merci de partager cette passion du jeu. À bientôt sur Fréquence Diagonale. Je vous quitte avec notre générique fétiche. Au revoir.